Elle est que le fruit de tout ce lent envasement. sont rassemblés pour préparer le déjeuner et flottent les odeurs de pain chaud et d'épices. Nous sommes sept, Ariel et moi, notre mère et sa sœur Grima, ses filles Dana et Rosel ainsi que Vania. Jenna et Grima, voici cinq galettes de plus, déclare cette dernière, alors désignant des cercles de pain cuisant de graisse. Je m'en occupe, copine ma mère, laissant sa cadette le soin de préparer les infusions. De notre côté, nous avons pour tâche de nettoyer les plats et de récurer. D'habitude, ma tante Irina et Dana sont aînées de cesse de bavarder en leur rabot, raillerie sur les mers sur la tête, jusqu'à ce que le moment soit venu de porter leur repas aux hommes. Mais ce matin, toutes deux sont silencieuses et tendues. À la fin de la semaine, Dana quittera définitivement la maison pour rejoindre celle de son époux. Celui-ci, Tobian, un officier au front strié d'horrible et à l'expression sévère, est un ami de notre famille. Il dirige une unité spécialisée dans la traque des hordes. Père de trois filles, il est âgé de 40 ans. Tobian a répudié sa femme à la naissance de la quatrième, une frêle enfant qui n'a pas survécu plus de quelques jours. Il veut un fils, espère que Dana sera celle qui le lui donnera. Alors, il se débarrasse de sa première épouse. Il la met au rebut. Elle passera le restant de ses jours dans un couvent lunaire, édifice austère, sans autre ouverture sur notre monde, déjà clos, que trois fenêtres percées dans le poil de pierre brune. C'est dans ces prisons confinées que finissent les femelles indignes, les rebelles qui défient la volonté de leurs ennemis. En refusant le mari qu'on a choisi pour elle, par exemple, on le décevant. Si Dana ne parvient pas à satisfaire Tobian, elle aussi sera cloîtrée là-bas. Mais c'est sympa, on est d'accord, finalement. J'en ai posté.
C'est bien l'univers, cet univers le plus agréable possible à vivre. Oui, et encore. Mais oui, c'est un monde où les femmes sont traitées en esclaves, sont de toute façon coupables. N'est-ce coupable d'avoir de porter des ténèbres en âme, donc on les rend responsables en fait d'une chute. En fait, j'ai pas voulu écrire un roman évoquant les religions, mais je me rends compte qu'il y a dans ces superstitions-là, c'est évidemment du pseudo-péché d'Ève. Mais donc, comme de toute façon elles sont coupables, elles doivent expier, donc pour expier, elles sont esclaves, elles sont là pour porter des enfants, mal de préférence, servir leur mari, donc on les trouve effectivement, elles ne déjeunent pas, elles ne dînent jamais, ou quasiment jamais. Et que de toute façon, quand elles dînent du soir, oui, elles sont emprisonnées, elles peuvent être aussi tuées, elles peuvent être exilées quelque part. C'est la seule chance qu'elles ont dans HAP. Voilà.
Quelques pas de plus. Agnès Marot, on va voir que c'est pas toujours facile de marcher. Excusez-moi, mademoiselle. Une femme d'une cinquantaine d'années est plantée devant mon siège et regarde ma mère mauvais. Ces places sont réservées aux handicapés. J'acquiesce trop fatigué pour expliquer mon cas, insiste. Vous avez l'air tout à fait bien portante. Je montre mes béquilles posées sous le siège, je ne peux pas marcher. Vous avez la carte de handicap. Je secoue la tête toute rouge comme chaque fois qu'on me pose la question. Je n'y ai pas droit parce que ma pathologie n'est pas encore connue, mais j'ai super mal et je suis épuisé. Cela dit, si vous avez plus besoin de cette place que moi, je vous la laisserai avec plaisir. Ah non, mais moi, j'en ai pas besoin, dis juste que cette place est réservée à ceux qui ont la carte et que vous ne l'avez pas. On croirait plus vécu, Agnès Marot.
C'est du vécu. Alors, c'était pas dans le bus, c'était supermarché, mais effectivement, pour ce moment-là, j'ai pas été très loin pour chercher le monde difficile, puisque j'ai donc passé 2 ans à Béthil avec des couleurs d'origine inconnue, et que donc j'ai découvert la dureté que ça pouvait être aussi en fait beaucoup de personnes, et on ne le soupçonne pas du tout.
avancées, on parle de l'égalité, mais les avancées pour l'égalité des femmes qui existent dans un nombre de nos pays, entre autres européens, ont été remplacées par un retour de la domination masculine et la pire domination. Et puis aussi la vie quotidienne, là on est plutôt dans l'univers quotidien, même s'il y aura un peu de fantastique et de mystère. Évidemment, sinon, ne soyez pas là. Et donc, où la pureté, tout simplement la pureté des petites mesquineries, des petites agressions, des petits préjugés de la vie quotidienne. Et voilà, dès qu'on est un petit peu différent de la majorité, il suffit de l'être pendant un tout petit moment. Et tout de suite, on se dit, ah oui, c'est ça qui fait les autres. Et quand on est soi-même en minorité, évidemment, on s'appelle avec qui, tout simplement, on est une minorité provisoire, hein, avec un handicap provisoire, et on se retrouve confronté. Je trouve que ce petit passage le montre avec beaucoup de simplicité et d'efficacité. Les gens qui ne misent pas vraiment, on va commencer par le début, alors là, ça ne déclarera pas. Et là, on est un peu plus dans le tragique. Avec donc, je dis tu, T-U-E, hein, je précise, à tous ceux que j'aime, au nom de Vistig, qui vient de sortir en poche, L'âge d'homme, c'est vraiment tout récent. Le précédent roman était chez Scrimio pour Agnès Marot, chez Gulfstream pour Charlotte Bousquet, et chez Critique pour Estelle. Mon Dieu, ne dites pas ça devant elle, vous allez nous la gâter. Donc enfin, je vous décide à me rendre compte que tout ça n'était que convention, règle, convention. Il a fallu que je perde un gamin. Un gamin de 50 ans. Un grand a été bien élevé. C'est moi qui l'ai élevé, c'est le Bridge. Qui travaille dans une banque, la place à la direction. Propre sur lui, derrière sa personne, sachant magnifiquement tailler les crayons. Et peut-être pas. Voilà qu'il se déconne un méchant cancer. Bon, il a fallu un sacré moment pour qu'il nous le dise. Et seulement après qu'on a retiré une pastèque grosse comme ça. Ensuite, il a fait comme s'il était sauvé. C'est son droit, il allait mourir. Il n'a rien dit. Aucune dernière volonté. Il n'en avait guère de son vivant. Ça n'était pas en mourant qu'il allait soudain en avoir une de volonté. Mais nous, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, on a aussi fait comme si. Et quand il est mort, on a tous fini par dire qu'on savait bien qu'il était condamné. Mais on n'avait rien prévu. Rien prévu. Bon. Voilà. Pathos, mais d'émotion. Et la brutalité comme ça, la vie quotidienne, je dis QPUE, mais ce n'est pas un choix de titre, j'imagine, laissé par hasard.
Mais non, ça fait partie intégrante de l'histoire. Mais donc, c'est un livre qui raconte une histoire d'amour entre un livreur d'un auditeur qui n'arrive pas à livrer dans une ville inconnue et un accordéoniste. Mais c'est un livre très sombre, alors la soirée très sombre, et au fur et à mesure que l'histoire se développe, la vie se rétrécit. C'est un livre. Donc, quand j'écris des livres, souvent, je ne m'occupe pas tellement de savoir pourquoi je raconte ça, ce que je raconte, ce que je laisse se développer une histoire, et souvent, je découvre après. Puisque ce dont elle parle peut-être, et voilà.
Nécessairement des histoires drôles, mais surtout pas nécessairement des fins optimistes, on en reparlera tout à l'heure, mais à l'inverse, les trois auteurs qui vous ont précédé dans ce début de discussion, elles ont choisi, malgré la violence, des affrontements, la douleur de la perte, puisque des gens meurent dans ces livres comme dans la vie, néanmoins de faire des fins optimistes. Alors on sait que c'est un exercice un peu obligé pour le roman jeunesse, où la règle est quand même très dur, les choses affreuses, mais on ne désespère pas totalement la jeunesse, pour les adultes non plus. Et finalement, oui, quelques livres font des choix inverses, mais en règle générale quand même, c'est plutôt la tendance que c'est très très sombre, on laisse quand même un espoir, sauf exception. Sinon, ça pourrait être un dire mot, y compris dans la maison d'édition. Le soulèvement, la révolution, la violence, le sang, les affrontements, ça peut néanmoins déboucher sur quelque chose d'optimiste.
En fait, ça débouche sur, quand même, disons, pas mal de choses optimistes. Tous les pas forcément à la fin, mais il y a de l'optimisme, il y a de l'espoir. Et finalement, il y en a plus à la fin de ce roman que ce que j'avais prévu au début. C'est-à-dire, en gros, j'ai mis 2 ans à écrire ce livre. Vraiment pour l'écriture, j'ai pris des notes pendant des années, mais l'écriture elle-même, c'était 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, j'ai vu le monde changer autour de nous. Vous parlez tout à l'heure des rapports avec le monde contemporain, évidemment, qu'il y a dans ce roman. Et j'ai vu le monde devenir. paradoxalement, quand le monde est devenu plus sombre, j'ai eu quelque part besoin de mettre plus d'espoir, ou l'histoire a réclamé plus d'espoir. Parce que j'ai vu le monde devenir plus dur et plus sombre, et en même temps, j'ai vu tous les gens qui, parfois à de tout petits niveaux, parfois juste à côté de moi dans ma commune, continuer, mine de rien, à se battre pour arranger les choses, continuer à faire leur petit bonhomme de chemin et continuer à apporter leur petite lumière et leur petit espoir dans ce monde. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais avant tout, c'est toi que je veux parler. Évidemment, je veux dire que le monde est dur, évidemment, en plus, ce monde, c'est de la dark fantasy, c'est de la dark fantasy épique, c'est un genre où on fait des grandes batailles, où on fait des sortilèges qui peuvent ravager des régions entières. Mais ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de parler de tous ces gens qui tiennent, alors que ce n'est pas forcément les plus privilégiés. Alors que ce n'est pas ceux qui sont en position de pouvoir. Et ces gens qui tiennent sans même se rendre compte, en fait, qu'ils sont courageux souvent. Qui juste font ça parce que pour eux, c'est ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et voilà, il y a un personnage qui est cigarette, pour ceux qui ont lu, et qui aurait pas été là juste pour ouvrir une porte. Il n'y a pas de gros pouvoir magique, il n'y a pas de gros muscles, qui au début n'a même pas d'éducation, qui ne vit pas dans le pire quartier de la ville, mais juste dans une abonnée. Et en gros, sa seule plage de liberté, c'est les soirs où elle arrive pendant 5 minutes à être toute seule dans le vieux cimetière qui s'enfonce dans le fleuve et à pouvoir se scarifier. Ça, c'est le début. Et simplement, elle va découvrir au fil du livre qu'il y a autre chose que la survie dans la vie. Et c'est un personnage qui est devenu peut-être le personnage emblématique de Boeck parce qu'il porte ça. Il porte cette force des petites gens qui amène de l'espoir dans le monde. Mais quelque part, on parlait de fantaisie. C'est ce qu'il y a au cœur de Bilbo, au cœur du Seigneur des Anneaux, c'est les petits hobbits contre Sauron et contre Mordor.
Charles Bousquet, est-ce que vous aussi, à votre façon, vous faites le choix de l'optimisme pour résister à la pression du monde? Est-ce que c'est une métaphore de la pression du monde? Est-ce que c'est une façon de dire que ça pourrait nous menacer? Parce que ça a été la situation des femmes dans notre pays, dans notre monde, il n'y a pas si longtemps. Et que quelque part, ça pourrait à nouveau revenir. Est-ce que vous ne montrez pas aussi avec vos personnages féminins deux choix, celles qui acceptent leur ancien, celles qui subissent, celles qui sont les jugées, se résignent, et celles qui disent non et qui se révoltent?
Ça fait beaucoup de questions. Alors, en fait, je pense que j'essaie d'avoir depuis 2-3 ans, en fait, en t'écoutant parler, je me rends compte que j'ai que toi, c'est que depuis 2-3 ans, j'ai déjà beaucoup plus optimiste qu'avant. Et on est dans un monde qui est effectivement de plus en plus dur, de pire en pire, où les gens, en parlant d'actualité, ce qui se passe en Tchétchénie, c'est juste complètement sidérant, mais au sens premier du terme, c'est monstrueux. Et puis, ce n'est qu'un bout de quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est dans un monde et dans un pays qui stagne, qui essaie de tout ça côté sur ces derniers, j'ai envie de dire sur ces dernières pauvres forces, alors que tout le
juste ma fille, alors c'est vrai que ça peut me faire du bien. C'est un petit biscuit. Agnès Barraud, quelques pas de plus. Alors là aussi, il faut une bonne dose de plus. Est-ce que votre héroïne, elle est donc avec qui? On lui annonce que c'est à vie et qu'elle continuera dans cette situation, qu'il n'y a pas de remède pour elle. Et en plus, comme si ça ne se suffisait pas à soi-même de s'occuper de son propre cas, elle doit gérer sa sœur qui est encore plus mal et dont, visiblement, un mal mystérieux, qui est un mal mystérieux rouge et dont la vie pourrait être en danger. Mais dans cette famille, il y a un pouvoir mystérieux, un pouvoir de guérison. Les origines chamanes, de la chose, de Varro, comme ça on dit plutôt. Et elle part de ses vêtements pour essayer de prouver justement ce pouvoir de guérison. Mais comme on s'en doute, il faut bien quelques opposants. Et donc, les figures du mal attendent de s'emparer de ce pouvoir, sans doute pas pour guérir, plutôt pour l'utiliser à de plus mauvaises fins. Est-ce qu'on est, j'imagine qu'on est un peu dans le rôle de mauvais, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de cet enfermement vers de grands espaces, même si c'est le battement. Est-ce que c'est votre vision de la fantaisie urbaine et de votre optimisme, c'est-à-dire que même dans une situation qui semble difficile, sinon désespérée, il y a plein de choses à faire?
Alors oui, pour la fantaisie urbaine, simplement, moi, à l'origine, je l'ai pensé comme un roman contemporain, quelque part de plus. Il s'est avéré que l'imaginaire a pris une place un peu plus importante que prévu au fil des corrections et des écritures, justement parce que je me suis intéressée à la culture navarro. Tout simplement à l'origine, parce que pendant le moment où j'avais eu Betty, j'ai fait un voyage dans le Far West et j'ai donc découvert la culture navarro qui m'a beaucoup plu. Et au moment où je commençais à réfléchir à faire un roman de tout ça, j'ai fait des recherches sur cette culture et je me suis rendu compte que ce qui est au cœur de la culture navarro, c'est la notion de ozo qui est donc présente dans le roman. Et le ozo, c'est la santé. C'est le fait que, en fait, pour eux, quand on a santé, que ce soit moralement ou physiquement, c'est que quelque chose en nous s'est brisé dans notre harmonie avec nous-mêmes ou avec les autres ou avec la nature. Donc les deux se sont liés assez naturellement, en fait, ça serait même assez. Je trouve ça merveilleux entre les deux idées qu'on ne sait pas comment les lier et puis qu'elles se lient presque naturellement. Et pour moi, j'avais envie de parler du handicap, de mon expérience, etc., mais certainement pas de faire justement quelque chose de déprimant, d'une part, parce que c'est mon. Donc, quand j'écris, c'est donner de l'espoir, exactement comme disait Estelle tout à l'heure, que je rejoins 100%. Parce que, voilà, on a assez de choses déprimantes dans le monde, donc j'ai envie de donner de l'espoir. Et aussi parce que des romans sur le handicap, très souvent, alors déjà souvent c'est des handicapés en fauteuil, ou tétraplégiques, etc., et très souvent ça se termine mal. Ou bien, c'est bon, c'est des fins pas très optimistes, et c'est assez déprimant à l'écart. Moi, ce que j'ai dit, c'est déjà quand on est handicapé, c'est un déprimant à son quotidien. Si en plus, quand on lit des trucs qui nous ressemblent pour une fois, c'est encore pire, c'était pas du tout mon intention que j'avais envie de faire une héroïne battante, qui n'est pas l'origine, qui devient, parce que pour avancer, pour faire quelques pas de plus, justement, il faut qu'elle se batte, elle. Pour les autres, c'est facile, mais elle doit se battre. Et en fait, le rôle de la sœur, qui a toujours pris soin d'elle, qui l'a aidée, parce qu'ils ont une famille, etc. Avec son électrochoc dont parlait Charlotte tout à l'heure, parce que justement voilà, sa sœur va commencer à aller mal, qui elle, ça va pas être physiquement, ça va être moralement, mais c'est aussi une forme de handicap qui se développe petit à petit. Et donc la petite sœur va se dire voilà, ma sœur a toujours pris soin de moi, tout d'un coup c'est elle qui a besoin d'aide, elle n'arrive plus à m'aider, et ben c'est pas parce que je suis avec qui que je vais pas pouvoir l'aider, parce que de toute façon je vais pas m'aider toute ma vie. Donc si je fais rien, je vais rien faire de ma vie. Sa raison de se battre, de continuer, de poursuivre son chemin, et donc un chemin qui l'amène très loin sur les terres navarro, donc à la recherche de ses origines, puisque leur mère, en fait, était navarro, mais n'a pas eu le temps de leur transmettre ses cultures, donc elles vont la redécouvrir en allant sur place, et en cherchant donc à retrouver ce ozo qui peut-être pourrait leur permettre de guérir. Et donc le rôle du coyote, qui est donc un dieu navarro, Dieu, pas tout à fait, ils appellent son trickster. Je ne sais pas si vous connaissez Bibi et Coyote, le dessin animé. C'est Coyote, voilà. Donc, qui cherche toujours effectivement à attraper Bibi, pas faire le mal, mais qui est quand même assez drôle à regarder. Donc, c'est pas un dieu maléfique puissant, c'est vraiment un personnage plus complexe que ça, qui est très intéressant, je trouve, à étudier. Et qui est donc l'antithèse du ozo, et son but premier, c'est de que le ozo disparaisse. Donc, forcément, il a
optimiste. J'ai essayé d'aimer beaucoup les enfants, visiblement. Plusieurs fois, elle a répété que l'insistance croissante. Mais non, les enfants, ce n'est que le vent qui souffle dans les arbres et la fourriture. C'est le vent, c'est le vent. Or, le vent était tombé avec l'arrivée de la nuit. La lanterne balançait à cause des peurs du prénom. Le travail avait commencé. C'était mon heure. Je devais naître. Tout à coup, le plusieurs frères a hurlé. Lilou ! Juste derrière le prénom, il y avait comme des étoiles. C'était les yeux des loups qui brillaient. Je me suis dit, oui, la poursuite commençait. Mon père fallait claquer son fruit. Les frères et sœurs s'agrippaient à leur mère et elle, ma mère, elle le mettait au monde. Tout à coup, mon père s'est retourné, il a hurlé. Il faut leur donner quelque chose, donne-le. Après, elle s'arrêta et attendit. Alors, on s'insiste. Alors là, je ne suis pas sûr, les garçons du fer. Va savoir si maman avait déjà sectionné le cordon avec ses dents. Si c'est la sursaut du traîneau qui a fait le boulot. Si elle m'a sacrifié pour sauver les autres. Les enfants qu'elle connaissait déjà, et dont elle savait le prénom. Ou si c'est mon père qui m'a balancé. Vous avez vu l'assassin, m'a très poursuivi. En tout cas, les deux ont vu ce machin qui va me blaguer. Donc, je me suis dit, choix de ta poulet. Les histoires que vous aurez en rencontre, je raconte à lui aussi.
Il faut que je rapporte un rectificatif. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, parce que vous savez, quelques années, j'ai fait dessiner ma peinture, d'écriture, etc. Et les deux choses que j'ai aimé au monde faire avec la collaboration de mon ex-épouse, c'est les enfants. J'ai fait deux filles, j'adore ça, maintenant j'ai des petits-enfants. Et donc, entre ma vraie vie et ce que j'écris, il y a quand même une certaine différence. Alors, ça, il y a un écrivain que j'aime, comme écrivain que j'aime beaucoup, c'est Michel Tournier. Il a dit, il y a peu de gens qui ont la chance d'avoir comme éthique qui leur permettent de mettre en musique leur pleurs. Alors je pense que c'est une élection de type psychologique, etc. Mais je pense que je suis né du pied gauche et donc j'ai un mauvais fond et que ce mauvais fond alimente la musique que j'écris. Et j'ai découvert heureusement qu'il y a des gens qui aiment écouter une musique un peu en mineur, c'est comme ça qu'on dit, et qu'il n'y a pas un certain nombre de lecteurs qui me suivent. Alors ça, je pense que dans tous mes livres, je ressens quand même une très grande amour que j'ai pour les êtres humains. Mais ça, je pense que ça transparaît et ça éclaircit un tout petit peu la noirceur de mes récits que j'assume cela.
Oui, même ce passage, bien sûr, il y a aussi un peu de bourdoir, mais on sent aussi que même ces personnages avec cette scène, on imagine, enfin, l'enfant jeté, etc., on doute que c'est plus ou moins quand même une fiction, mais voilà, même ces personnages-là, même si on y croyait, quelque part, ils sont quand même sympas, enfin, attachants, ils sont pas sympas, ils sont attachants. Voilà, c'est peut-être ça aussi le comble dans un roman où on a des fins pessimistes et des histoires pessimistes, c'est qu'on a quand même plaisir à les lire parce qu'on est touché aussi, quelque part, par le fait que les personnages ont du mal à s'en sortir. On est à la fois, quand ils s'en sortent, c'est ce que vous dites, même s'il y a des pertes dans le livre. Mais aussi, on peut parfois être heureux, finalement, c'est aussi si important qu'une fin optimiste, peut-être que oui, parfois, et puis peut-être qu'on a le droit aussi de faire autrement, finalement. Charlotte, vous avez fait aussi des livres, le titre me revient plus, mais une histoire qui est un conte, on en parlait.
J'aurais dû la mettre.
Oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est pas un livre.
Eh bien, c'est un livre. ça nous permet de prendre le recul nécessaire pour vraiment mettre en question le monde. Là où, quand on a le nez collé sur son quotidien, bah, finalement, souvent, quand je lis des romans blanches, que je vois, c'est un quotidien. Mais c'est un quotidien qui ne dit pas vraiment quelque chose de plus sur le monde. C'est quelque chose, c'est une vision très réductrice des choses. Alors que nous, quelque part, nous prenons de la distance. Et par exemple, bah, quand on fait une fin d'empire, comme j'ai fait là, ou quand on fait du post-apocalyptique, l'idée, c'est de dire, regardez, les mondes peuvent changer, les mondes ont déjà changé quand on fait de l'historique. En tout cas, c'est possible. Et on n'est pas limité par le fait de, enfin, si on prend juste les infos télé d'aujourd'hui, on verra que le monde va mal, on ne verra pas forcément qu'il est possible de changer. Et alors que l'histoire nous prouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que leur monde allait mal et que ça n'allait jamais changer, et ça a changé, parfois ça a changé en bien. Et l'imaginaire nous permet ça, nous permet de prendre ce recul-là. Donc il nous permet de voir le monde avec des yeux un peu, comment dire, dessinés.
Charles Bousquet, vous voyez les choses pareilles?
Ah oui, et puis j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que je trouve que quand on est dans un monde qui va mal, le fait de dire que rien n'a changé, de dire de toute façon c'est toujours pareil et tout ça, ça fait aussi le jeu des gens qui n'ont pas envie que ça change. Et en fait, c'est une forme de, c'est une autre forme de pessimisme. J'ai envie de dire que ce pessimisme-là, qui est vraiment celui de la résignation, du ça sert à rien, c'est vraiment une autre forme d'esclavagisme.
Si je peux revenir sur ce que tu as dit, c'est à côté, donc j'ai des romans réalistes, des romans blancs, j'en lis des très bons. Et quelque chose qui m'a frappé dans beaucoup des romans blancs qui pourtant sont fait remarquer ces derniers temps et que j'ai lus, c'est que c'est souvent des rencontres, parfois des rencontres entre des personnages qui viennent d'univers différents. Mais au moment où ils pourraient s'enclencher quelque chose de plus qu'une rencontre, pouf, le roman se termine. Voilà, c'est par exemple, je peux faire un petit spoiler sur le roman blanc, je ne sais pas si vous avez lu L'élégance du hérisson de Michel Barnier. En gros, au moment où le gars cultivé et la concierge pourraient finir ensemble, pas faire un canapé en voiture. Donc il n'y a rien qui va changer vraiment. Et on parlait des déclencheurs, de ce qui fait bouger quelque chose dans la tête d'un personnage, dans la tête d'une personne. Pour moi, les déclencheurs dans Bohème, c'est des rencontres. C'est des rencontres entre eux, des gens qui n'auraient pas forcément dû se rencontrer. Et puis, ils vont se rencontrer parce qu'il y en a un qui allait un peu plus loin, il y en a un qui allait là où il n'aurait pas dû aller. Donc, il y a des rencontres imprévues. Et c'est ces rencontres-là aussi qui font bouger le monde et qui font bouger les gens. Et ça, dans les romans imaginaires, ce que j'adore, c'est que je vois toutes ces rencontres-là qui se font et qui font changer les êtres et qui font changer les héros. Là où dans les romans blancs, ben, finalement, ils se rencontrent et puis rien.
C'est peut-être important, c'est peut-être la morale du roman, finalement, Marielle Barbès, c'est pour ça qu'il a bien marché. C'est que finalement, on nous dit quand même que quand les gens ne sont pas du même milieu social, quand ils ne sont pas acceptés dans ce cadre de la part sociale, peut-être qu'il faut être raisonnable, histoire d'abord savoir, mais bon, voilà, c'est quand même le sexe machina dans cet exemple-là. C'est-à-dire que finalement, rien ne changera, ça rassure. C'est le roman de Blanche, parfois, pas tous, bien sûr, mais pas quelques pas, est-ce qu'il n'a pas pour vocation de rassurer et vous d'interroger?
Bah, disons que ça rassure, mais pas. J'ai l'impression que ça rassure certains lecteurs, mais pour moi, je pense que la seule à cet âme ici, de dire que rien ne va changer, c'est un peu le pire qu'on peut nous promettre. Quoi. Surtout que rien ne change, en fait, ça veut dire juste que les choses vont continuer à aller de plus en plus mal, tranquillement, doucement.
Il y a aussi Estelle, une autre version, et n'y voyez pas d'allusion à l'actualité. Parfois, il faut que tout change pour qu'en fait rien ne change. Mais bon, c'est une autre discussion.
Après, je vois juste un peu de nuance. En même temps, je me dis que c'est peut-être aussi parce que j'écris de la littérature générale. Les personnages changent en littérature générale pour la même manière. Mais c'est peut-être parce que, effectivement, je viens de la fantasy et aussi de la jeunesse et que j'ai besoin de mouvement. Et que la stagnation existe même dans l'histoire. En fait, c'est ça que tu veux dire.
C'est pas toute la blanche, c'est juste ça.
Oui, parce que je n'ai pas trop mal vu quelque part. Oui, ce que je voulais aussi voir avec Agnès, donc, quand on partait comme ça, quel est l'intérêt pour un personnage qui semble au départ freiné, comme son handicap matériel, physique, et de faire partir des États-Unis quelque part comme ça. Il y a un paradoxe là, quand même.
Oui, on a parlé de changement justement, parce que pour moi, dans ce moment-là, c'est des changements qui ne sont pas dans le monde, mais personnels. Et pour changer, parfois, il faut aller voir autre chose que ce qu'on connaît. Donc, au départ, en fait, le roman est dans deux temps, une petite trame qui s'entremêle. Il y a une partie qui est pour moi la moitié, en gros, où elle est en France et où elle vit sa vie au lycée, où elle va faire kiné, son quotidien en plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'autre partie qui est avec des chapitres intercalés, où elle part en voyage et où tout son quotidien est complètement bouleversé. Pour moi, c'est important justement de la faire voyager parce que, d'une part, j'avais envie d'une quête un peu épique, parce que c'est pas parce qu'elle avait dit qu'elle n'a pas le droit à ses heures de gloire et à des, je sais pas, à un moment, elle a jamais un méchant avec ses béquilles, enfin, ce, voilà, ça peut se transformer aussi de temps en temps. D'autre part, parce que, comment dire, que quand elle est dans son quotidien, elle ne pense qu'à cette douleur, elle ne pense qu'à ses difficultés quotidiennes. Et quand elle sort de ça, tout à coup, c'est plus au centre de sa vie, c'est autre chose. Ça va être les découvertes qui sont au centre de sa vie, et évidemment sa sœur, et donc sa quête pour acquérir ses sœurs. Et ça ne peut pas se passer dans son cadre habituel, parce qu'elle a ses habitudes qui sont... Quand on est avec qui on a une douleur récurrente, etc., on est obligé d'avoir des habitudes pour pouvoir vivre au quotidien. Typiquement, voilà, le matin, au lieu de prendre sa douche comme tout le monde, on galère parce qu'on est sur un pied, si on le pose, on a super mal, on essaie de trouver un tabouret, enfin bref, on a plein de petites habitudes réglées, auxquelles on pense tout le temps. Et qui prennent, je pense, 70% de notre cerveau à optimiser chaque phrase le plus loin de pas possible. C'est une chose que j'ai expliquée par une théorie qui s'appelle la théorie des prières et qui est reprise dans le roman d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, moi, à expliquer à mes proches. C'est en fait une femme qui avait le lupus, donc des douleurs et fatigues chroniques très récurrentes, et qui expliquait à son ami au restaurant concrètement qu'est-ce que c'est de vivre avec une douleur. Donc elle prend toutes les cuillères qu'elle voit autour d'elle, qu'elle ressent, en fait, ce qu'elle peut. Et elle lui dit, voilà, chaque cuillère, c'est de l'énergie. J'ai plus de cuillère, j'ai plus d'énergie, je ne peux plus rien faire. Et elle fait sa journée petit à petit. Elle dit, voilà, je me lève. Déjà, alors, j'ai une cuillère, rien que je dois en fait se lever. Ensuite, je prends ma douche, je l'enlève deux, parce que comme j'ai expliqué, c'est plus compliqué pour tout le monde. Sa copine me dit, bah, attends, t'as déjà un peu trois, t'es même pas encore habillée, mais rien. Peut-être qu'il faudrait rappeler ton petit déjeuner, parce que tu perdras une cuillère. Elle dit, bah non, parce que si je rappelle mon petit déjeuner, je ne peux pas prendre les médicaments, donc pourquoi je peux enlever toutes les autres cuillères, etc., etc. Jusqu'à la fin de la journée, on va se retrouver avec une cuillère et de choisir entre aller manger et rentrer chez elle, en gros. Et c'est une théorie qui explique très bien comment on est obligé de faire des choix, de penser à tout, de compter notre énergie. Parfois, on peut prendre un peu plus de cuillères, mais du coup, on a moins le lendemain, donc on va falloir compenser. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps dans notre quotidien. Et du coup, c'est important pour Léon et pour se rendre compte qu'elle peut vivre aussi autrement, plus librement. C'est important qu'elle sorte de cet aspect-là pour pouvoir prendre conscience simplement qu'elle peut toujours s'intéresser à autre chose, mais qu'elle peut encore arriver à faire des choses sans tout compter. Et donc, elle retrouve une liberté finalement en vivant son quotidien. Et quand elle le retrouvera, elle le vivra avec acceptation
et de facilité. Est-ce que vous avez un peu la même vision des choses dans votre littérature, Charles Bousquet? Justement, d'être confronté à cet optimisme, c'est-à-dire l'auteur, on voit la façon dont le personnage d'Agnès est confronté chaque jour à des choix, à des difficultés, malgré tout, elle avance. Pour les rôles dans un tout autre contexte, c'est un contexte de science-fiction post-apo, est-ce que quelque part aussi, en tout cas certaines de vos héroïnes, ne sont pas amenées à faire malgré tous les obstacles qui leur sont posés et qui, quelque part, leur retirent la cuillère, je pense que l'image n'est pas mauvaise, à néanmoins aller de l'avant et
réflexe de baisser les yeux devant les hommes et avoir relevé les yeux. C'est un effort, mais c'est quelque part un des derniers efforts. Enfin, c'est une dernière petite cuillère, du coup, qu'elle va enlever parce qu'enfin, elle va pouvoir respirer elle-même. Donc, c'est compliqué. Mais ça se fait.
Mais c'est très fine. Dans votre roman, c'est aussi un petit peu ce qui arrive, vous disiez tout à l'heure, au personnage. Et c'est en ça que le livre, même s'il y avait perdu des morts, des gens qui vont perdre leur anneau, parce qu'ils vont être plus au combat, on va dire évidemment lesquels les gens découvriront. Néanmoins, votre fin est optimiste parce que. Ils ont choisi la vie qu'ils voulaient. Ils ont mené des combats qu'ils estimaient justes. Et quelque part, même s'ils ne le verront pas tous, ça aboutit à ce qu'ils espéraient, au moins en partie de ce qu'ils espéraient. C'est peut-être ça l'optimisme, finalement.
Oui, et disons, c'est l'idée que même ceux qui se sacrifient voient que finalement, ils se sont peut-être sacrifiés pour quelque chose, pour les moments les plus tristes du roman. Et après, je voulais. Mais revenir sur ce que disait justement Jean-Pierre, c'est quand on parle aussi du voyage, c'est d'ailleurs le thème du festival cette année, destination. Finalement, la fantaisie, c'est une littérature de quête, c'est une littérature de voyage. Et voyage, c'est ce qui fait changer les gens, qui les pousse à sortir de leur carcasse, qui les pousse à aller chercher un autre horizon, c'est-à-dire à vraiment aller chercher une nouvelle liberté, ou même simplement à comprendre ce que c'est d'être libre. Et je parlais de la fin, enfin, moi, c'est la fantaisie chorale, donc il y a plusieurs personnages. Et j'en parlais avec mes lecteurs de la fin de certains personnages, notamment d'une des héroïnes féminines, pas si d'une autre, qui, pour certains, a une fin vraiment optimiste, et pour d'autres, au contraire, sa fin, elle n'est pas si heureuse que ça. Mais pour moi, en tout cas, sa fin, elle est au moins porteuse d'espoir, dans le sens où elle est libre, elle a perdu beaucoup de choses, elle décide aussi d'en perdre beaucoup elle-même, mais pour être libre et pour être, bah, comme tu disais, en accord avec elle-même. Avec ce qu'elle veut être. Donc, une fin optimiste, c'est pas une fin forcément où tout est rose, où il y a des petites fleurs, des petits oiseaux, où tout va bien dans le monde. C'est une fin où, en effet, les personnages peuvent faire les choix qui leur correspondent et surtout savoir quels sont les choix qui leur correspondent, ce qu'ils ne savent pas forcément au début.
Oui, mais oui.
Je ne sais pas si je peux me permettre de rebondir. J'aime beaucoup la formulation du sujet, mais une fin optimiste et non pas happy end, une fin heureuse, c'est pas du tout la même chose. Très souvent, on avait des fins. Le monde est dur, de toute façon, on ne peut pas bien se terminer. Il y a forcément des sacrifices, que ce soit personnels ou des pertes, comme on disait. En revanche, l'optimisme, c'est le fait que soit le personnage a trouvé sa place, soit a accompli ce qu'il avait accompli, soit il a réussi à changer peut-être un peu le monde qui était dur autour de lui et à aller peut-être se sacrifier pour quelque chose, comme tu disais tout à l'heure.
Mais ceci dit, en conclusion, puisqu'on arrive au terme de ce café littéraire, et il faudra laisser la place au suivant. Bon, vous aussi ne sont pas toujours optimistes, même s'il y a des personnages, on l'a vu, qui sont émouvants. Vos fins non plus ne le sont pas toujours. Vous êtes un peu le contrepoids de ce café et vous montrez que la littérature n'est pas uniforme. D'ailleurs, la bande de départ, j'ai lu beaucoup de romans, j'ai commencé à regarder qui vient de sortir, le nouveau roman d'Agnès Barrault. Mais vous, Jessie, est-ce que finalement l'optimisme, c'est pas d'écrire des livres et de trouver des lecteurs? Est-ce que l'optimisme, finalement, pour un écrivain, c'est pas d'écrire des livres et de trouver des lecteurs?
Bah, c'est un peu d'avoir l'énergie et l'humanisme de toujours se remettre à l'ouvrage. Hein. Puis, mes films sont beaucoup plus optimistes et ils se terminent en général par une fin que j'appelle la fin UBS, une langue de Suisse. C'est-à-dire que la fin, ils partent vers l'horizon, main dans la main, ils vont se marier et ouvrir un compte à la banque.
Merci pour cette pointe d'humour. Merci à vous quatre. En tout cas, je vous renvoie au livre de nos invités, Estelle Faye, Les Seigneurs de Gwen, aux éditions Critiques, Charles Bousquet, Sans Lune, aux éditions Gulfstream, Agnès Marot, Quelques pas de plus, aux éditions